RCF.
Bonsoir à toutes et à tous, ce vendredi soir, on est très heureux de vous retrouver pour vous accompagner sur RCF France-Ardenne, RCF Cœur de Champagne et tout en Champagne-Ardenne avec la radio numérique, le DAB+, elles sont là, fidèles au poste, nos stagiaires à la rédaction. Bonsoir Lucie.
Bonsoir Alexis.
C'est votre dernier jour aujourd'hui, on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure, vous nous ferez un petit bilan de votre stage, ça sera juste avant le journal régional. Petit teasing, ça s'est plutôt bien passé quand même.
Très bien passé même.
Bon, ça c'est une bonne nouvelle, elle est là également, Élise à nos côtés, bonjour Élise.
Bonsoir Alexis.
Et vous nous emmènerai du côté du stade de foot de Gueux qui sera inauguré demain. C'est une petite commune de la Marne, ça sera à l'intérieur du journal régional. Le rendez-vous, c'est à 18h30. Dans quelques secondes, nous serons avec le professeur Jacques Cohen qui nous parlera du Titan autour du Titanic, de l'importance des détections sous-marines. Nous serons également avec Mgr Éric de Moulin-Beaufort, archevêque du diocèse de Reims et des Ardennes, qui posera son regard sur l'actualité dans l'Église, dans le monde et dans l'intérieur du diocèse de Reims et des Ardennes, bien évidemment. D'autres rencontres diocésaines au programme à l'occasion de la Nuit des Églises. Nous serons avec le père Paul Royer au sujet de la soirée tourisme-religion de demain, samedi 24 juin. On partira également dans les Ardennes pour évoquer les 30e rencontres guitare et patrimoine en Ardennes qui ouvrent aujourd'hui. Amélie Rossi-Paon, directrice de la MJC Calonne de Sedan, nous présentera cet événement qui va se prolonger jusqu'à début juillet. Et puis enfin, nous serons avec Séverine Couvreur à l'occasion de la 6e marche des réconciliations. Là, le rendez-vous, c'est ce dimanche. Un sommaire copieux, un menu digeste, comme dirait Jean-Pierre Benoît, qui sera lui aussi avec nous tout à l'heure dans cette émission. Mais comme on en a l'habitude le vendredi, on retrouve avec nous par téléphone le professeur Jacques Cohen. Exceptionnellement, cette chronique a été enregistrée avec quelques jours d'avance. Alors c'est vrai que les lignes ont bougé au moment de cette diffusion, mais ce vendredi soir, quoi qu'il en soit, professeur, vous êtes en ligne avec nous. Bonsoir.
Bonjour.
Et aujourd'hui, vous voulez nous parler des sous-marins. C'est vrai que cette semaine, on a cherché un sous-marin disparu puisqu'il était parti rechercher, voir en tout cas observer l'épave du Titanic. Jacques Cohen, une photographie de cette histoire.
Eh bien, on a perdu le contact et il n'a pas refait surface avec un sous-marin de poche de très grande profondeur, avec 5 personnes à bord, qui allaient observer le Titanic avec comme passagers un ou deux milliardaires et un ou deux analystes pour regarder encore des choses possibles dans l'interprétation de ce qui est arrivé à l'épave. Alors ce qui est spectaculaire, d'abord, c'est qu'on a recherché avec des moyens aériens, mais qui ont bien sûr des traînes, où ils larguent des bouées en mer, et qu'on a fini par entendre des coups de marteau toutes les demi-heures, ce qui veut dire que quand même, on est capable, dans les moyens de détection, de détecter un coup de marteau sous 4 km d'eau, ce qui est quand même très spectaculaire sur l'efficacité d'une part. D'autre part, on ne l'a toujours pas retrouvé, mais le temps passe, l'oxygène s'amenuise, on ne peut pas faire de pronostic pour l'instant. Lorsqu'on l'aura retrouvé, il ne sera pas sauvé en un instant, il faut le temps de le remonter, ce qui n'est pas absolument évident si lui-même n'est plus capable de chasser ses ballasts et d'aider à ses remontées. Mais ce qui est plus spectaculaire encore, c'est de réfléchir aux moyens de détection des sous-marins. Parce que détecter des sous-marins, c'est quelque chose d'essentiel en matière militaire. D'abord, il n'y a pas de sous-marins qui ne sont pas militaires. Et l'essentiel de la fonction des sous-marins, c'est d'être caché, soit pour torpiller d'autres bateaux, soit pour pouvoir lâcher des missiles, généralement nucléaires, sans cri des gardes, en pleine mer, pour aller n'importe où dans le globe. Et ça, il y a longtemps qu'on cherche à l'éviter. Alors, il y a une détection par les hydrophones, par le bruit, ce qui semble cette fois-ci avoir fonctionné. Et il y a toute une chaîne de micros qui ont été ainsi posés au fond de l'eau pour essayer de détecter les passages des sous-marins russes. Et je pense que les Russes en ont fait autant dans l'autre sens. Mais ça ne suffit pas, parce que les sous-marins modernes font, comme on dit, à peu près autant de bruit qu'une crevette sous l'eau. Ce qui n'est quand même pas beaucoup de bruit, comme vous le savez. Alors, il y a d'autres moyens de détection qui sont envisagés, pour lesquels, je vous le dis tout de suite, aucun n'a abouti pour l'instant. Mais c'est un enjeu essentiel, parce que construire des sous-marins, ça revient extrêmement cher et ça prend très longtemps. Vous avez peut-être suivi l'histoire du contrat avec l'Australie sur des sous-marins à propulsion classique, qui devait le faire sur 15 ans. Et les Australiens ont fini par changer d'épicerie et, par surprise, s'inscrire chez les Américains. Mais là aussi, c'est du 15-20 ans. Or, dépenser des milliards, puisque un sous-marin, lui tout seul, pour ce genre d'engin, c'est déjà l'échelle du prix. S'il est nucléaire, c'est de l'ordre de 5 milliards facilement. Donc, il s'agit d'engager des sommes considérables sur des temps considérables en pariant sur l'invisibilité. Parce que le jour où on sait les détecter, les avantages des sous-marins s'effondreront instantanément. Alors il y a des tentatives de détection laser, je ne ferai pas tout le détail. Il y a des tentatives de détection magnétométrique. Il y a des tentatives de détection des bulles d'air, puisqu'un sous-marin c'est finalement une bulle d'air, mais loin sous l'eau. Puis il y a une chose particulière pour les sous-marins atomiques. Et là ça peut être assez intéressant et amusant de le raconter. Tout réacteur atomique dégage des neutrinos. Aucun matériau ne peut masquer ou dévier des neutrinos. Toute la question, c'est celle des détecteurs de neutrinos. Pendant très longtemps, pour détecter les neutrinos, il fallait faire quelque chose de plusieurs dizaines de mètres cubes, enfoui pour éviter le bruit de fond, sous 1 ou 2 kilomètres de mine ou de tunnel. Mais maintenant, on en est à faire des détecteurs qui font la taille d'un gros baril de pétrole et qui permettent de surveiller les centrales nucléaires, car quiconque ralentit une centrale pour en sortir des crayons ou autres peut ainsi être détecté si c'est un site qui a accepté l'inspection de l'Organisation internationale de l'énergie atomique qui pose ce genre de truc avec des télémesures à proximité. On a d'ailleurs un centre de recherche à ce sujet qui a été fait en France autour de la centrale de Chaux parce que les neutrinos ont une particularité, c'est qu'ils n'ont pas le même goût, si je puis dire, quand ils sont tout frais et quand ils ont un peu voyagé. Alors rassurez-vous, c'est pas comme les poissons, il faut très très peu de temps, mais un neutrino tout neuf, ça se différencie d'un neutrino cosmique, par exemple, ce qui n'était pas le cas avant. Bref, le jour où on s'est détecté les neutrinos dans la condition réelle d'un réacteur nucléaire sous l'eau, eh bien tous les sous-marins nucléaires au monde deviendront des ferrailles obsolètes, sauf ceux qui sont capables de les transformer en remettant un moteur classique. Et je crois d'ailleurs que les Français sont les seuls qui sont étudiés, ou du moins qui sont ainsi adaptables, même si on ne l'a jamais fait pour l'instant, en croyant nous aussi un caractère indéfini de la non-détection des sous-marins nucléaires sous l'eau. Enfin, ça, donc on verra, je ne sais pas si c'est moi qui le verrai, mais on verra parce que la révolution à la matière peut se produire dans 6 mois, dans 2 ans ou dans 50 ans. D'autre part, les progrès techniques sur le temps de plongée des sous-marins classiques s'allongent. Nous revenons à notre sujet de départ. Ils s'allongent parce que beaucoup de sous-marins ont ainsi des systèmes de retraitement et peuvent maintenant tenir de l'ordre de plusieurs semaines sous l'eau, tout en ayant assez d'énergie pour ce qui est des sous-marins classiques, hein, pas des sous-marins nucléaires. Et l'avantage du nucléaire diminue quand même quelque peu, même s'il n'est pas encore complètement aboli. Mais là, malheureusement, le petit sous-marin de recherche en question n'a que des bouteilles, et ces bouteilles se vident inexorablement. Je crains que l'on ne finisse par remonter un sous-marin avec des cadavres, et non pas un sous-marin avec des gens encore vivants dedans. Mais tant que ce n'est pas fait, il faut s'acharner, il faut essayer de les sortir de là. Et on va donc voir ce qui va être fait dans les 2-3 prochains jours.
Jacques Cohen, vous n'êtes pas, vous, dans les fonds marins de l'Atlantique. Vous êtes avec nous pour évoquer ce sujet. Vous parliez de la détection des sous-marins. Et pour être vraiment sur le sujet du jour avec ce sous-marin qui est enfui lorsqu'ils sont allés voir l'épave du Titanic, c'est vrai qu'on entend, vous l'avez dit, des bruits à intervalles réguliers d'une demi-heure. Ça peut être quoi la provenance de ces coups, Jacques Cohen, finalement? Ça peut être un sous-marin bloqué, des bruits de moteur. Le fait qu'il y ait un intervalle régulier, ça paraît assez surprenant, par exemple.
Non, au contraire, c'est de la part des gens qui sont enfermés dans cet engin, un calcul délibéré. D'abord, faut pas s'agiter parce qu'il faut consommer le moins d'oxygène possible. Et des coups toutes les demi-heures, c'est encore la meilleure façon d'indiquer que c'est pas un bruit accidentel de quelque chose qui ballotte dans le sous-marin. Donc, c'est une façon tout à fait logique de signaler une présence vivante.
Merci, professeur Jacques Cohen, en tout cas d'avoir essayé de décrypter avec nous aujourd'hui cette affaire et puis de nous avoir parlé stratégie militaire à travers tout cela. À très bientôt, professeur.
À bientôt.
Pour rappel, cette chronique a été enregistrée mercredi. Évidemment, depuis, les débris du sous-marin ont été retrouvés. On a bien évidemment une pensée pour les victimes de cette expédition.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
Vous le savez, le vendredi, juste avant le journal régional, nous sommes avec l'archevêque du diocèse de Reims et des Ardennes, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, au micro de Jean-Pierre Benoît.
Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre, bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes en direct dans ce studio de Reims. Alors c'est vrai que c'est l'été, donc on va être peut-être un peu plus léger. La météo s'annonce un peu meilleure aujourd'hui. En parlant musique, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de concerts. D'ailleurs vous-même, à la fête de la musique, vous aviez ouvert les portes de la cour de l'archevêché.
Oui, depuis 2 ans, donc on ouvre les portes de l'évêché. Et puis il y a donc un groupe, disons, de pop louange qui se produit. Et puis cette année, la maîtrise est venue aussi. Donc il y a une belle alternance, je pense qu'on a vécu une belle soirée. Et puis c'est un signe, je pense, important de montrer que l'évêché est une maison ouverte, et il faut que nous trouvions le moyen de l'ouvrir davantage.
Et d'ailleurs, demain à Mouzon, dans les Ardennes, dans un lieu quand même assez exceptionnel, il y a un concert de louanges avec Be Witness, Sois témoin. Ça aussi, c'est un rendez-vous important pour tout le monde.
Bien, je pense que pour tout le monde, les jeunes, les moins jeunes, ce qui va se passer à Mouzon demain, samedi soir, est très important. Pour ceux qui ne la connaissent pas, l'abbatiale de Mouzon est une des très belles églises, non seulement de notre diocèse, mais je dirais une très belle église en soi, une très belle église en France. Un commencement du gothique qui mérite d'être découvert dans la jolie petite ville de Mouzon au bord de la Meuse. Donc oui, c'est une belle occasion d'aller apprendre à louer le Seigneur, rendre grâce, vivre dans l'action de grâce et pas uniquement dans la supplication. Je pense que c'est une belle démarche spirituelle, un moment plein de joie. Donc j'encourage tous ceux qui le peuvent à aller demain soir donc à Mouzon.
Et puisqu'on arpente les chemins ardennais, pas loin de Mouzon, enfin un petit peu différent, du côté de Challerange, dans quelques jours, il va y avoir encore une mobilisation de la fraternité missionnaire ou des équipes missionnaires pour des visites.
Oui, mais notre effort missionnaire, il se poursuit. D'ailleurs, il se poursuivra jusqu'à la fin. On n'a pas fini. Il faut sans arrêt, comme cela, aller rendre visite. Donc, je me réjouis qu'effectivement, dans l'espace Ardennes Sud, il y ait des opérations comme ça, pour quelquefois d'une journée seulement, mais qui permettent d'aller régulièrement dans différents villages, différentes petites villes. Mon rêve, c'est qu'il n'y ait aucun village de notre diocèse qui puisse dire qu'on n'a jamais vu un prêtre depuis 20 ans, même si on ne le voit qu'une journée comme ça, un peu fugitivement, une journée tous les deux ans, que malgré tout, on en ait vu un qu'on souhaite aller. Alors, pas seulement les prêtres, mais les prêtres accompagnés de tous ceux qui veulent bien les accompagner. Et je remercie effectivement notre équipe missionnaire, mais aussi toutes les équipes locales qui se mobilisent. Et je crois que nous avons comme chrétiens, comme catholiques, vraiment un rôle à jouer pour aller, comme on l'a souvent dit, à la rencontre des autres, aller écouter ce que les uns et les autres ont à confier, porter devant Dieu la prière des uns et des autres, les actions de grâce et les supplications. Et ça donne beaucoup, en fait, beaucoup de joie. Et c'est l'occasion de découvrir notre fraternité plus profonde.
Alors, Monseigneur, il y a aussi les pèlerinages qui se préparent, pèlerinages de Lourdes d'ailleurs. Bon, les inscrits avancent doucement, mais sûrement, c'est un pèlerinage important du 17 au 22 août, je crois,
voilà,
ou du 16 au 22 août.
Oui, voilà, donc le pèlerinage de Lourdes au mois d'août est traditionnel. Depuis le Covid, nous avons réussi à reprendre et à remplir de nouveau un TGV. J'espère, là, plus il y a de monde, mieux on se porte. Je sais qu'il manque aujourd'hui des hospitaliers pour accompagner les nombreuses personnes malades qui souhaitent y participer. Donc je suis heureux de relayer l'appel qui est fait par l'hospitalité pour qu'il y ait un peu plus d'hospitaliers qui se présentent. Et puis d'autre part, il peut y avoir des pèlerins tout à fait ordinaires. Il y a encore de la place, il y a des hôtels à Lourdes. Donc on peut aller vivre ce beau temps diocésain qui est vraiment aussi une occasion de nouer des liens à l'échelle du diocèse. Et d'apprendre comme cela davantage de nous connaître.
Pèlerinage à Lourdes, et puis on en parle déjà, les journées mondiales pour la jeunesse, hein, vous allez bien sûr en être, Monseigneur.
Oui, bien sûr. Alors, donc, nous avons plus d'une centaine de jeunes du diocèse, donc ça c'est très réjouissant. Donc quelques personnes handicapées, l'Arche à Reims envoie un groupe, donc il faut tout un monde autour des personnes avec un handicap pour les accompagner, porter les fauteuils ou aider les uns les autres à franchir quelques obstacles. Et tout ça est très réjouissant. Et là aussi, nous en espérons un beau dynamisme. Ça permet de rendre hommage à toute l'équipe qui a mené Night Prayer à Reims pendant des années, depuis les JMJ de Cracovie, 4 samedis par an. Ils ouvraient l'église Saint-Jacques et ils chantaient, ils animaient toute une veillée et proposaient proposer aux gens d'entrer pour un petit temps de prière, hein, déposer une intention devant le Saint-Sacrement. Et c'était une très belle expérience et je remercie ceux qui l'ont menée.
Vous avez évoqué à l'instant l'Arche, Monseigneur. D'ailleurs, vous avez, je crois, fait rencontrer l'Arche tout récemment.
Oui, hier, j'ai eu la chance d'aller passer la soirée avec l'Arche, découvrir l'implantation de l'Arche à Reims, à la fois leur implantation centrale et puis un des trois foyers. L'Arche, ce sont des foyers où vivent des personnes en situation de handicap avec d'autres personnes qui les accompagnent, et puis tout autour, tout un monde de salariés, de bénévoles qui les accompagnent, les aident à vivre et qui apprennent beaucoup, qui reçoivent beaucoup des personnes en situation de handicap. Et c'est à l'occasion, là aussi, de beaucoup de fraternité et de joie. Ça nous ramène vraiment au sens profond de notre humanité. Et l'Arche a beaucoup de projets pour s'ouvrir davantage encore au monde extérieur.
Alors l'archevêque de Reims, bon, toujours présent le vendredi, mais aussi on en profite, le président de la conférence des évêques de France. À ce titre, vous allez vous rendre à Limoges tout prochainement?
Oui, j'ai été invité par l'évêque de Limoges à présider une des ostensions, je crois la dernière. Les ostensions, ce sont des manifestations qui ont lieu tous les 7 ans dans le Limousin, où on promène en procession les reliques d'un certain nombre de saints locaux qui ont été des ermites aux environs du 6e, 7e siècle. Et c'est un immense concours de population. Et voilà, je suis heureux donc d'aller découvrir cette belle manifestation et d'apporter ma petite parole.
Et puis un petit peu plus tard, un voyage ultramarin, un voyage en outre-mer, ça sera dans quelques jours cette fois, c'est un peu plus loin.
Oui, ce sera début juillet.
On aura l'occasion d'en reparler.
On aura l'occasion d'en reparler, voilà.
Alors, Monseigneur, il y a dans l'actualité diocésaine un rassemblement économique à Rethel, je crois que c'est demain.
Oui.
Il y a aussi un certain nombre de manifestations un petit peu partout. On a vu que le samedi prochain, il y avait un rendez-vous sur la biodiversité à Saint-Loup-Terrier qui rassemble beaucoup d'associations, mais aussi qui évoque... Bien sûr, l'encyclique, d'une certaine façon, Laudato aussi, tout est lié avec la création, avec les agriculteurs, les animaux, enfin tout ça, c'est important.
Oui, je me réjouis que l'encyclique Laudato aussi continue à intéresser toutes sortes de gens, toutes sortes de responsables économiques, culturels, politiques. Et ce qui va se passer à Saint-Mouy-Terry était, je crois, vraiment très, très, très intéressant. Ce sont des petites initiatives locales, mais qui peuvent avoir beaucoup d'impact pour conforter tout le monde dans cette transition écologique que nous avons à vivre. Et du point de vue chrétien, bien que nous apprenions encore davantage à vivre dans la création qui nous est donnée, qui est un don qui nous est fait, et non pas d'abord une terre à conquérir ou à exploiter.
Merci Monseigneur, merci Jean-Pierre. Et aujourd'hui, juste avant le journal régional, exceptionnellement, on ajoute un nouveau rendez-vous. Vous le savez, on a des stagiaires à la rédaction. Élise, c'est votre dernière semaine au complète. Vous serez encore avec nous en début de semaine prochaine. Mais cette semaine, nous étions aussi avec Lucie Duquesnoy, qui vient de terminer son année de seconde à Jean 23. Nous a accompagnés tout au long de la semaine. L'occasion, Lucie, de revenir sur vos 5 jours au sein de la rédaction de RCF France-Ardennes. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors ce stage, comment ça s'est passé?
Bon, ça s'est déjà très bien passé.
Bonne nouvelle, ouf, on est rassurés.
Donc l'année dernière, j'avais déjà effectué mon stage de 3e chez RCF et je l'ai beaucoup aimé. J'ai donc voulu y retourner cette année pour mon stage de seconde, pour découvrir plus en détail le fonctionnement d'une radio, le monde des médias et le métier de journaliste. Durant ce stage, j'ai assisté à de nombreuses interviews. J'ai également assisté à une conférence de presse ce mardi 20 juin qui s'est tenue au stade de Reims. J'ai aussi pu lire la parole de Dieu avec M. Bettler lors de ses méditations quotidiennes. Et ce jeudi 22 juin, j'ai accompagné Alexis et Élise dans le tournage de l'émission Radio Guidage en Belgique et à Sedan. Pendant ce stage, j'ai appris à réaliser un bulletin météo que j'ai présenté le soir en direct sur le journal régional. J'ai également appris à mieux m'exprimer en public et à prendre confiance en moi. Ce que j'ai le plus aimé pendant mon stage, c'est la conférence de presse. C'était très intéressant et impressionnant de voir comment fonctionne une conférence de presse, de rencontrer des journalistes de milieux différents et de voir des personnalités qui font l'actualité du moment.
Comme Garou et Laurie Tuneman, vous voulez dire ?
Exactement. Pour conclure, j'ai adoré mon stage, j'ai compris le fonctionnement d'une radio, le déroulement d'une interview et d'une conférence de presse. J'ai redécouvert le métier de journaliste, sa variété et sa complexité. Et j'ai également pu appréhender le monde des médias. Ce stage a bien évidemment reconfirmé mon envie de devenir journaliste. Le monde des médias m'intéresse beaucoup et j'ai envie d'approfondir ma connaissance dans ce domaine.
Le bilan est parfait, le rapport de stage est presque déjà prêt, la conclusion est faite. Merci beaucoup Lucie, merci pour ton sourire, pour tes bonnes prévisions météo. On est plutôt passé entre les gouttes, avec l'exception de ce jeudi où c'était une catastrophe du côté de Sedan. On a vraiment eu des orages et des grosses averses, mais c'était quand même un bon moment. On va voir si pour ce week-end les prévisions restent bonnes. Merci pour ton implication, ton professionnalisme malgré ton jeune âge. Et puis tu sais que tu es chez toi à RCF, c'est déjà la deuxième fois que tu viens. Peut-être que tu auras l'occasion de revenir à d'autres moments. On a un petit peu débordé, mais on passe quand même au journal régional sur RCF. Avec les titres de ce vendredi 23 juin, la 6e marche des réconciliations se déroulera dimanche autour de la nouvelle commune de Blanc-Coteau, un moment toujours attendu par Pierre-Emmanuel Tétinger, président de la mission Coteau, Maison et Cave de Champagne. À partir de janvier 2024, le bus de la vue du Lions Club va sillonner la région Grand Est. Cette unité mobile de dépistage des problèmes de la vue propose des rendez-vous gratuits avec un ophtalmologiste.
RCF, l'actualité régionale, Alexis Claudret.
Ce dimanche est organisée la 6e marche des réconciliations à Vertu-Blanc-Coteau au sud d'Épernay par la mission Coteau, Maison et Cave de Champagne. Le président Pierre-Emmanuel Tétinger présente ce temps fort.
Une marche très intéressante autour de Vertu. Ce sera un beau moment. Vous savez, moi je dis qu'on doit passer son temps à se réconcilier avec la nature, avec l'environnement, avec la culture, avec soi-même. Tout ça, ce sont des choses auxquelles on doit penser en permanence. Puis le thème de la réconciliation, il appartient aux Champenois, puisque c'est quand même en Champagne que les deux grands pays de l'Europe, l'Allemagne et la France, se réconcilient. Mais il ne s'agit plus d'une réconciliation aujourd'hui autour d'entités ennemies, mais de se réconcilier nous-mêmes avec ce que je viens d'évoquer.
Au programme pour cette édition, trois parcours de 8, 14 et 21 km ouverts à tous dès 8h30. Au-delà des balades festives, la journée de dimanche s'articulera entre expositions, conférences, concerts, animations diverses et restauration, évidemment. Et si pour le moment on est focus sur cette édition 2023, en 2024, la marche des réconciliations sera organisée du côté de Dormans. Davantage de précisions sont à venir dans cette édition avec Séverine Couvreur qui sera notre invitée en deuxième partie d'émission, la vice-présidente de la mission Coteau, Maison et Cave de Champagne. En ruralité, Élise, on profite de la trêve estivale pour inaugurer de nouvelles infrastructures.
Ce samedi, à partir de 11h, Jean-Pierre Ronceau, maire de Gueux, inaugurera le stade de foot de la commune, dont le nom sera dévoilé à cette occasion. Composé de deux terrains, l'un synthétique et l'autre naturel, mis à disposition pour des clubs et aussi pour des établissements scolaires, la commune intègre les préoccupations de transition écologique actuelle et a par conséquent disposé des panneaux photovoltaïques sur le bâtiment accueillant les vestiaires et la structure administrative. Cette opération en partenariat avec Enedis a permis la mise en place du dispositif d'autoconsommation collective conduisant à la réduction de la facture énergétique. Durant cette inauguration, le club de foot de Gueux sera mis à l'honneur et les équipes joueront de 9h à 10h45. Sur le terrain en herbe, les enfants U6, U7, U8 et U9 affronteront les mamans, alors que sur le terrain synthétique, les enfants U10, U11, U12 et U13 joueront contre les papas. À partir de 11h aura lieu l'inauguration et le dévoilement de la plaque, suivi d'une visite des installations et d'un pot de l'amitié avec une démonstration de foot. L'après-midi, des rencontres sont organisées. À 13h30, ce sera les filles seniors. À 14h30, ce sera les U14, U15 et U16. Et le dernier match se jouera à 15h30 et ce sera les seniors vétérans. Rendez-vous à l'entrée des installations situées aux deux rues du Platane à Gueux ce samedi.
Merci Élise pour ces précisions. On reste en sport. À l'occasion des Jeux Olympiques Paris 2024, le parcours de la flamme a été dévoilé ce matin. 65 villes étapes, 100 sites emblématiques. La flamme olympique sera dans la région Grand Est à partir du mercredi 26 juin. Elle arrivera par Strasbourg. Elle arrivera dans l'ex-Champagne-Ardenne à partir du vendredi 28 juin en Haute-Marne, en passant notamment par le site de Saint-Dizier. Elle passera également par Bourbonne-les-Bains et le mémorial Charles de Gaulle à Colombelles et deux églises. Un site qui sera traversé donc par la flamme olympique. Les Rémois devront attendre le dimanche 30 juin pour voir la flamme olympique traverser la cité des Sacres. Elle ira jusqu'à Épernay où elle traversera notamment l'avenue de Champagne. Et cette fois, on vous présente un rendez-vous pour lequel il ne faudra pas attendre 2024, puisqu'à Reims, ce week-end, pour les amoureux de musique, c'est à la Magnifique Society qui a ouvert ses portes tout à l'heure que la musique bat son plein. C'est parti pour 3 jours de festival au Parc de Champagne. Aya Nakamura ou encore Phoenix font office de tête d'affiche pour cette première soirée. Le DJ rémois Yuxek est également de la partie. Avoir un rendez-vous chez un ophtalmologue peut prendre du temps ou paraître loin de chez soi. Après le lancement fin juin 2021 dans le sud-ouest de la France, le district Est au Lions Club se lance également dans la création et l'organisation d'un bus de la vue, un véhicule proposant un dépistage gratuit aux habitants qui ont des problèmes de vue. Pour le nouveau gouverneur du district Est au Lions Club, Michel Sarrazin, ce nouvel outil sera à destination de tous les Lions Clubs de la zone Est.
Afin de mettre à disposition des 115 clubs Lions de l'Est de la France, nous avons décidé donc de mettre à leur disposition un bus de la vue, donc qui sera un véritable cabinet ambulant avec matériel très performant ophtalmologique afin d'effectuer des dépistages.
Ce nouveau cabinet ambulant a pour objectif de rayonner toute la zone est de France, en milieu urbain, mais aussi en milieu rural. Martine Coutier, présidente du Lions Club Chalon-Saint-Vincent.
Depuis de nombreuses années, le Lions organise des journées de dépistage dans le cœur des villes, avec un dépistage qui souvent touche de nombreuses personnes. Mais là, l'idée du bus, c'est vraiment d'aller à la rencontre des personnes qui habitent dans des secteurs qui sont des secteurs de déserts médicaux, des personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer et qui... grâce à ce bus, pourront avoir une information claire et un diagnostic clair sur une infection ophtalmique qu'ils ont. Et puis ensuite, les ophtalmologistes qui sont à l'intérieur du bus pourront assurer un lien avec un service médical où ces personnes pourront être prises en urgence.
Des propos recueillis au micro RCF Cœur de Champagne de Christopher Fausten. Le bus de la vue démarrera son tour début 2024. Il sera lancé dans l'agglomération chalonnaise où vit Michel Sarrazin, qui a bien œuvré à la réalisation de ce projet. Comme tous les soirs de cette semaine, on retrouve Lucie Diquenois une ultime fois pour la météo. Avec cette question qu'on vous a posée toute la semaine et qu'on vous pose donc une dernière fois, Lucie, quel temps dans le ciel en Champagne-Ardenne pour ce week-end ?
Pour ce samedi, dans la matinée, dans la Marne, à Reims et à Chalon, le soleil sera au rendez-vous avec un beau ciel bleu et une température de 17 degrés. Dans les Ardennes, à Charleville, Sedan et à Rethel, le temps sera également ensoleillé avec une température de 16 degrés et un léger vent. Dans l'après-midi, dans la Marne et dans les Ardennes, le temps sera magnifique avec un ciel ensoleillé ainsi qu'une température de 27 degrés. Donc profitez bien de cette belle journée ensoleillée. Et dans la soirée, dans la Marne et les Ardennes, le temps sera plus nuageux que dans l'après-midi, puisqu'on attend quelques averses avec un vent soufflant jusqu'à 15 km par heure. Donc pensez à prendre votre parapluie. Le samedi, nous fêterons la Saint-Jean-Baptiste. Pour ce dimanche, dans la matinée, dans la Marne et les Ardennes, la température sera de 18 degrés, avec un ciel ensoleillé accompagné d'un léger vent. Pour l'après-midi, dans la Marne et les Ardennes, la température montera jusqu'à atteindre les 28 degrés. Donc pensez à prendre de la crème solaire pour vous protéger et à boire de l'eau pour vous hydrater. Pour terminer, dans la soirée, dans la Marne et les Ardennes, il fera 27 degrés avec un ciel dégagé. Et le dimanche, nous fêterons la Saint-Prospère.
Eh bien, merci Lucie pour ces prévisions. Ainsi se referme ce journal. Le 18-19 en Champagne-Ardenne continue sur RCF.
Le 18-19.
Tous les jours.
Sur RCF.
À Reims.
Chalon. Charleville-Mézières.
Et dans cette deuxième partie d'émission, on représente des événements diocésains, notamment dans le cadre de la Nuit des Églises. Les membres de l'association de sauvegarde de l'église de La Chapelle-Lasson et les chrétiens du Cézanais organisent ce samedi 24 juin à Allemange-Launay-Soyer plusieurs animations. En parallèle, un tourisme religieux sera proposé, comme nous l'explique le père Paul Royer, prêtre en retraite active au diocèse de Chalon, au micro RCF Cœur de Champagne de Christian Lancio.
Bonjour Paul.
Bonjour Christian et bonjour à tous les auditeurs de RCF.
Paul, vous avez innové, là, dans le cadre des opérations Église de France, Nuit des Églises. Vous avez pensé faire une soirée tourisme religieux.
Enfin, déjà, on veut surtout se mettre au rythme de la France, parce que on a besoin, nous aussi, de la publicité de toute cette démarche. On a simplement pris le titre un petit peu de tourisme religieux, tout simplement pour qu'il n'y ait pas de mensonge sur ce qu'on va proposer, que les gens sachent qu'on va parler du bon Dieu, même si des fois ça les embête.
Bien, bon, on y va, c'est le programme maintenant. Alors, donc d'abord, ça se passe quand ? Samedi prochain, samedi 24.
Ça se passe samedi 24, rendez-vous à 17h à l'église d'Allemange. Alors, à l'église d'Allemange, nous avons un certain nombre de choses originales qui permettent de voir. La première chose, quand on rentre dans l'église, c'est qu'il y a une barrière du XVIe siècle authentique qui sépare l'église en deux. Alors déjà, on va expliquer ça parce que ça a un enjeu aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au XVIe siècle, quand on a construit cette église-là, et c'était vrai pour toutes, il y avait la partie qui était strictement réservée au culte et la partie qui pouvait servir à tous les usages profanes de la commune. Alors ça, c'est particulièrement intéressant parce que c'est un problème d'aujourd'hui. c'est tellement vrai qu'aujourd'hui, bien souvent, quand il y a la messe dans un village, la commune ou quelqu'un offre un vin d'honneur à la fin. On est en train de faire de l'église un lieu de rassemblement populaire, ce qui était à l'origine. Alors, dans l'église d'Allemagne, surtout, on va présenter le retable qui représente la scène, le dernier repas de Jésus. Et il y a une certaine originalité, c'est qu'il y a quelques détails qui ne sont compréhensibles que si on fait référence à l'ensemble de l'évangile. Entre autres, à la multiplication des pains dont on va lire le texte, également aux noces de Cana où Jésus a changé l'eau en vin. Il y a même une femme qui est présente, qui semble évoquer la totalité des accueils que Jésus acceptait chez les gens, où c'était les femmes qui l'accueillaient, entre autres Marthe et Marie. Au bout d'une heure et demie, selon le programme, on va prendre le chemin. On a prévu de faire le chemin jusqu'à la chapelle Lasson. Il y a à peu près 5 km à pied.
Donc randonnée pédestre.
Randonnée pédestre, oui. Qui va nous permettre de traverser le marais de la chapelle. Et là encore, on va faire appel à la compétence du maire de la chapelle, qui est soucieux de la protection de ce patrimoine et qui est un patrimoine sur lequel les hospitaliers qui ont construit l'église ont travaillé, puisque quand ils sont arrivés, la première chose qu'ils ont faite, ça a été de drainer, puisque le marais était, invivable à cette époque-là. Et ensuite, on va reprendre une troisième heure et demie pour l'église de la chapelle Lasson. À l'arrivée à la chapelle Lasson, on ne va pas tout de suite visiter l'église. On va tirer le repas du sac pour qu'on pique-nique. Et c'est là qu'on rejoint notre fameuse barrière d'Allemanche. C'est que si c'est nécessaire, on va être obligé de pique-niquer dans l'église. Ce qui se faisait traditionnellement au Moyen-Âge.
Maintenant, il fera beau, Paul, il fera beau. Alors donc, on rappelle, donc, le départ, c'est donc le samedi 24 à 17h.
C'est ça.
17h à l'église d'Allemanche. Donc, venez nombreux, vous avez vu une belle soirée. Une soirée bon, qui va être à la fois pédestre, il va y avoir une randonnée pédestre, mais vous allez découvrir un retable qui est unique. Vous allez découvrir l'église d'Allemanche, les travaux de restauration, l'église de la chapelle d'Asson, avec les nombreux travaux qui ont été restaurés. Et puis, il y aura un côté convivial avec ce petit pique-nique.
C'est un programme. Alors, on peut rajouter au programme que ceux qui ne pourraient pas faire la marche ou qui ne le souhaitent pas, il y aura une projection à la salle municipale d'Allemanche des travaux qui ont été faits pour la restauration de la chapelle Lasson, puisqu'on a un amateur compétent qui nous fait des films merveilleux.
Bon, si vous voulez passer une bonne soirée, amis auditrices et auditeurs de RCF, venez à Allemanche et à la chapelle Lasson le samedi 24.
Le rendez-vous est noté. Merci Père Paul Royer et Christian Lancio depuis le sud-ouest marnais. C'est vrai que plusieurs initiatives démarrent ce week-end. Dans quelques instants, avec notre invité, on en découvre d'autres.
Le 18-19 sur RCF.
Avec nous par téléphone, on retrouve la directrice de la MJC Calonne de Sedan, Amélie Rossi-Paon. Amélie Rossi, bonjour.
Bonjour.
Pour évoquer un rendez-vous bien connu dans le département des Ardennes, les rencontres guitare et patrimoine, Amélie Rossi-Paon, si on présente cet événement, de quoi s'agit-il en quelques mots?
Eh bien, ça fait 30 ans qu'un noyau dur de passionnés de cordes de pincée s'est réuni et programme pendant une dizaine de jours. Là, on est sur 12 concerts sur Sedan et ailleurs, dans des lieux insolites et patrimoniaux.
Donc ça veut dire que les rencontres guitare et patrimoine, elles ouvrent ce vendredi 23 juin et jusqu'au 13 juillet. On va aller se rendre un petit peu finalement, j'allais dire, dans tout le territoire.
On est principalement sur le pays sedanais, mais le week-end du 1er de juillet, voilà, on part à la campagne. Donc il y a des concerts qui iront par exemple à Vrignebois ou à Ily encore.
Eh bien, si vous le voulez bien, Amélie Rossi-Paon, ce qu'on va faire avec vous, c'est dans un premier temps, avec les auditeurs de RCF, regarder la programmation de ces 30e rencontres guitare et patrimoine. Effectivement, c'est dès ce 23 juin que ça ouvre. Que va-t-il se passer ce vendredi?
Alors, vendredi 23 juin, nous ouvrirons à la MJC Calonne. C'est assez rare, mais bon, c'est...
À la maison.
On va dire à la maison, c'est notre camp de base. On est sur une proposition très festive de musique irlandaise, de groupe The Bridges. On s'est dit qu'on savait donner le ton pour cet anniversaire. C'est un premier accueil aux rencontres, donc un quatuor de musiciens, donc qui sont devenus des spécialistes, on va dire, de la musique traditionnelle irlandaise, donc ils tournent partout en France et en Europe. Donc on est ravis de les accueillir pour marquer ce démarrage du festival.
D'accord, ça c'est bien noté. On continue de balayer avec vous, Amélie Rossi-Paon, la programmation. Effectivement, on a dit ouverture vendredi, et puis après ça va se prolonger tout au long du week-end.
Alors, vendredi, on fait une petite pause.
Petite pause, pardon.
Alors, oui et non, parce qu'effectivement, donc, la nouveauté aussi cette année, c'est qu'on propose un off dans les bars de Sedan. Donc, le lendemain, non, effectivement, on ne se repose pas vraiment, puisqu'on accueillera le groupe Carapate au Catras à Sedan. Groupe, effectivement, d'artistes amateurs, mais amateurs éclairés, qui chantent Georges Brassens.
Alors, c'est toujours bon, voilà. Amélie Roussy-Paron, avec vous aussi, d'expliquer à nos auditeurs quelle est la différence entre le in et le off. Finalement, ça rejoint un petit peu ce qu'on voit avec les marionnettes à Charleville-Mézières, ce genre de choses.
Oui, alors c'est nouveau. On n'a jamais fait de off guitare, en fait. C'est vraiment une première. On a attendu 30 ans pour le faire, mais jamais trop tard. Et effectivement, même si on propose des choses gratuites à droite et à gauche, c'était une manière pour nous aussi d'investir les rues de Sedan et les bars de Sedan. Là, effectivement, on a choisi 3 concerts avec 3 bars partenaires dans les 3 places principales de Sedan. C'était, voilà, faire vivre le festival quand il n'y a pas de concert, effectivement, du win. Il y a des concerts du off, quoi. C'est un peu l'idée.
Comme ça, on a de la vie, j'allais dire, presque 7 jours sur 7 pendant cette période qui nous mène de ce vendredi 23 juin jusqu'au 13 juillet. Alors, c'est vrai qu'on s'était un petit peu avancé. Pour la programmation, on va dire in, on retrouvera les concerts. Ensuite, en début de semaine prochaine, ça sera le mardi 27 juin.
Oui, c'est ça. Mardi 27 juin. Là, c'est un retour. On les avait accueillis, un duo franco-belge, contrebasse et guitare 8 cordes. Hein. Il faut être sacrément virtuose comme l'est Adrien Brognat pour jouer sur une guitare 8 cordes. Donc là, on est sur plutôt musique du monde, musique jazz, musique classique. C'est un duo exceptionnel d'André Clénès à la contrebasse et d'Adrien Brognat. Et donc là, on sera dans les grands salons de l'Hôtel de Ville, à Sedan.
Eh bien, c'est pas mal ça comme rendez-vous. On continue de balayer ce qu'il se passe, toujours sur cette programmation in. On l'a compris, il y a le off également en parallèle. Peut-être le moment d'indiquer à nos auditeurs aussi où ils peuvent retrouver toute la programmation, Amélie Roussy-Paron.
Programmation sur notre site internet, sur nos réseaux sociaux, et puis également pour les Sedanais qui nous écoutent, voilà, on peut aussi envoyer programme papier, un petit coup de fil, on envoie le programme papier, et puis voilà, passez nous voir, il y a toutes les brochures aussi au sein de la MJC Calonne. Donc le 30 juin, on est vraiment ravis qu'elle ait accepté de venir pour marquer ses 30 ans de festival, Xu Feiyang, qui est quand même mondialement connue, qui est une guitariste chinoise, qui était venue aux rencontres, mais au tout début de sa carrière, quand elle était très peu connue, donc là entre-temps on a fait beaucoup de chemin, et par amitié pour le festival, elle a réservé sa soirée du 30 juin, donc c'est vraiment la guitariste classique, la soliste exceptionnelle, Xu Feiyang.
Alors c'est vrai qu'il faut dire que ce week-end du 30 juin, 1er de juillet, on va être au cœur de l'événement avec peut-être, j'ai pas envie de dire non plus le meilleur, mais ça va être le cœur de la programmation en tout cas, on va être vraiment en plein milieu des festivités.
Oui, tout à fait. Alors, ce week-end-là, évidemment, le 1er de juillet, c'est pas moins de 4 concerts totalement gratuits avec Marco Horvat, qu'on connaît bien à Calonne et qui est déjà venu effectivement en rencontre, bien cette année, accompagné de sa fille en duo. Sa fille qui est tombée dans l'univers baroque quand elle était toute petite avec les Paroquelas, c'est pas trop étonnant. C'était tout ou rien d'ailleurs, donc elle a choisi tout. Donc, ils nous proposent tous les deux 2 programmes différents. Donc, voilà, on s'est dit que ça ferait circuler aussi les spectateurs. Donc, un programme autour du baroque, baroque expliqué à mon père, et un programme plutôt romantique, on va dire. Ils ont appelé exercice de style. On démarre le samedi donc à 14h30 chez nos voisins de la médiathèque Georges Delot pour ensuite aller à l'église d'Illy en fin de journée avec exercice de style. Et le lendemain, 2 concerts. Un concert donc Forge, un lieu patrimonial bien connu des Ardennais qui est magnifique en espérant que le temps soit avec nous, mais à la Force Gendarme le 2 juillet à 11h. Suivi d'une auberge espagnole, puisque la commune nous met à disposition table, bancs et des barbecues. Plaisir d'associer à la fois la musique et les plaisirs gustatifs seront réunis. Et on terminera au Tapis Point, en partenariat avec nos amis d'Orbi et Orbi, donc l'année de Biennale, donc le 2 juillet à 15h au Tapis Point.
Bon, ça fait une très belle programmation pour ce week-end.
Oui, tout à fait.
Et puis le plaisir continuera aussi la première semaine de juillet avec des rendez-vous, notamment le mardi et le jeudi.
Mardi, jeudi, vendredi, là, on n'en fait pas moins, et sans compter un off le 5 juillet, donc là on n'arrête pas du mardi au vendredi. Samara Malouf, c'est une première au festival, ils nous viennent du sud-ouest, là ils sont en tournée d'été, c'est 4 musiciens autour du jazz manouche, donc totalement déjanté, hein. J'invite vos auditeurs à aller voir des vidéos, c'est une vraie revisite du jazz manouche. Il y aura mandoline et contrebasse. Donc, le 6 juillet, nous aurons Lily Fuerte en trio. Donc Lily Fuerte vient également du sud-ouest. C'est une guitariste qui s'est spécialisée en musique flamenco, dont on est assez rare, les guitaristes flamenca de renom. Donc là, elle vient donc le 6 juillet à 20h30, accompagnée d'Alberto Garcia au chant et de Juan Manuel Cortés aux percussions. La programmation, comme vous pouvez le voir, elle est très éclectique au niveau des univers musicaux. C'est vraiment le choix aussi de cette année, même de toutes les éditions, de faire des grands écarts musicaux.
S'il y en a une question, une réservation à faire, on n'hésite pas, on prend contact avec la MJC Calonne de Sedan. 03 24 27 09 75. Il y a également la billetterie en ligne qui est disponible pour réserver ses places, parce qu'on peut prendre le risque, j'allais dire, de se présenter le jour même. Mais c'est toujours mieux d'être sûr d'avoir les billets dans sa poche.
Oui, oui. Exactement, surtout que notre billetterie en ligne, elle est très concurrentielle dans le sens où, voilà, que ce soit le nombre de places que vous achetez, vous ne payez qu'un euro supplémentaire, pas sur le billet, mais sur le panier. Donc c'est quand même une billetterie très avantageuse. On est dans l'associatif, on est dans l'éducation populaire, il n'y a pas de doute chez nous.
Eh bien, en tout cas, un grand merci à Ménie Rossi-Paron, directrice de la MJC Calonne de Sedan, de nous avoir présenté ce rendez-vous, les 30e rencontres guitare et patrimoine en Ardennes. Ça démarre ce vendredi, le 23 juin. Merci à Ménie Rossi-Paron,
très
bientôt.
Merci à vous.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
Une dernière rencontre ce soir dans le magazine régional à l'occasion de la 6e marche des réconciliations organisée par la mission Coteaux, Maison et Cave de Champagne qui se déroulera dimanche dans la Côte des Blancs. Elle s'élancera plus particulièrement de la commune Vertu-Blanc-Coteaux pour 3 parcours ouverts à tous. On en parlait à l'intérieur du journal régional. On va apporter quelques compléments d'information avec la vice-présidente de cette mission, Séverine Couvreur, en ligne avec Christopher Fausten.
Séverine Couvreur, bonjour.
Bonjour Christopher.
Première question, pourquoi avoir appelé le rendez-vous marche des réconciliations ?
Alors, c'est une excellente question puisqu'il c'est un mot qui interroge beaucoup de personnes, beaucoup de champenois et peut-être beaucoup de touristes aussi. Alors, réconciliation, c'est tout simplement parce que déjà, à l'origine, comme l'aime à le répéter notre président Pierre-Emmanuel Tétinger, nous sommes une terre de réconciliation. Une terre qui a certes été meurtrie par les deux guerres mondiales, mais qui aussi a su s'en relever, a su reconstruire, a su se réconcilier finalement avec son histoire. Et quoi de plus évocateur d'ailleurs que cette inscription qui finalement montre combien ce territoire a été résilient et combien il a su se reconstruire, renaître de ses cendres et maintenant se préparer à vivre cette nouvelle histoire. Puis, notamment aujourd'hui, vous voyez, on est très préoccupé par les questions environnementales. Donc, c'est aussi la question de la réconciliation avec la nature. Donc on pourrait dire premièrement une réconciliation avec notre histoire, mais maintenant une réconciliation aussi avec cette nature qui, on le voit bien, a beaucoup souffert, continue de souffrir d'ailleurs, et qui aussi interroge beaucoup les hommes sur finalement leurs propres conditions et leur propre persistance sur cette planète. Et donc, serons-nous capables de nous réconcilier avec cette nature qu'on a regardée un peu de loin et qui maintenant se rappelle à notre bon souvenir en nous disant qu'on fait partie d'elle et qu'on doit la préserver, la défendre, la restaurer.
Une balade festive le 25 juin prochain à Blanc-Coteaux, une commune que vous n'avez pas choisie par hasard, Séverine Couvreur.
Oui, alors c'est toujours compliqué pour nous de choisir le bon endroit où on va faire cette marche. On aime bien que ça soit une marche qui soit itinérante dans toute la Champagne pour faire découvrir ce site inscrit au patrimoine mondial qui s'étale quand même sur 5 départements et qui donc n'est pas, j'allais dire, facile à observer d'un seul tenant. Donc cette marche, c'est justement l'occasion d'aller découvrir des lieux emblématique de cette inscription. Et Vertu-Blanc-Coteaux en fait partie, notamment parce que ça permet, au travers de cette commune, de découvrir la Côte des Blancs, et qui est quand même un des terroirs les plus renommés de cette Champagne viticole. Et donc, on a vraiment envie de montrer à la fois aux Champenois, mais aussi plus largement à tous ceux qui viendraient marcher avec nous, combien la Champagne recèle de trésors, et notamment aussi en Côte des Blancs, bien sûr.
Séverine Couvreur, comment sera organisée cette 6e marche des réconciliations, à savoir 3 parcours ?
Oui, tout à fait. Alors, il y a toujours effectivement 3 parcours. Ça, c'est notre mode opératoire. Un parcours plus familial qui est souvent entre 6 et 8 kilomètres. Cette année, il va faire 8 kilomètres. C'est un parcours qui va être vraiment dans la découverte là, de Vertu, du petit village, parce que Vertu est un village qui a énormément de choses à montrer. C'est une petite cité de caractère, en tout cas en voie de l'être, et qui a donc un patrimoine assez exceptionnel à faire découvrir. Donc, 8 kilomètres en famille dans le village. Après, nous avons un parcours qu'on dit explorateur, pour ceux qui auraient envie d'aller plus loin, de pousser au-delà du seul village et de ses richesses, et d'aller découvrir véritablement là les richesses de ce paysage culturel qui a été inscrit. Ces forêts, ce vignoble, cette plaine, qui sont le triptyque paysager de la Champagne, et donc là, le découvrir dans le contexte d'une marche un peu plus poussée de 14 kilomètres. Et puis, nous avons un parcours là plus sportif pour ceux qui seront d'attaque dès 8h30 pour le départ et qui auraient envie de faire les 21 km d'un parcours qui a pour ambition d'effectivement montrer le village, mais aussi d'aller véritablement dans la campagne, voir des points de vue, comprendre, s'immerger dans cette nature qui entoure Vertu et qui présente pas mal de diversité, des petites zones humides, des vignes, voilà. Donc c'est important aussi d'aller au contact de la nature. Voilà.
Alors des parcours de marche accessibles et des animations gratuites en parallèle.
Tout à fait, oui, puisque le but est d'être accessible au plus grand nombre, de permettre à tout un chacun de pouvoir participer à cette marche. Donc, on essaye de rendre pas mal de choses gratuites. Donc, on a notamment une exposition interactive « Ma champagne au patrimoine mondial » pour expliquer ce qu'est cette inscription au patrimoine mondial, ce que ça veut dire pour nous tous, qui sommes tous engagés derrière cette inscription, puisqu'à partir du moment où un territoire est inscrit au patrimoine mondial, c'est tous les habitants qui sont redevables de cette inscription et qui doivent la protéger et qui doivent aider l'État à la conserver. Donc cette exposition est une exposition itinérante et qui est à la fois bilingue, donc si jamais il y a des étrangers, ils pourront l'écouter, enfin ils pourront la découvrir en anglais aussi, et elle montre toute cette spécificité, à la fois le côté immatériel du champagne avec le vin de champagne, le savoir-faire aussi de la production du champagne, mais également tout l'aspect architectural, tout l'aspect aussi industriel qui s'est construit autour de ce produit phare de la région et qui a impacté les paysages de par des constructions justement de pressoirs, de vendangeoires, voilà, des outils professionnels qui ont jouer un rôle dans la construction de notre paysage.
Et il y aura d'autres expos ?
Oui, il y aura une autre exposition qui est elle aussi gratuite. Et là, j'encourage les familles vraiment à s'y attarder un peu longuement avec leurs enfants, parce que c'est une exposition qui ne demande pas forcément de savoir lire ou autre, donc ça peut aussi s'adresser à de jeunes enfants. C'est Les Mondes Parallèles de Michel Joliot, un photographe qui fait partie d'ailleurs du conseil scientifique de la mission UNESCO et qui a eu la bonne idée d'aller photographier de manière microscopique des éléments d'écorce ou de cèpe de vigne. Et en les assemblant sous la forme d'un jeu de miroir, il a créé des sortes de... Alors, on y voit ce qu'on veut. Moi, j'y vois des masques ou alors des monstres. Mais finalement, c'est comment on donne à voir des détails devant lesquels on passe tous les jours et qui ne de lichen, de mousse, de bois, et comment on les donne à voir au grand public et comment on suscite aussi un travail d'imaginaire pour les enfants et pour les adultes aussi. Et je trouve que ça, cette exposition, elle peut être intéressante pour les parents qui ont envie aussi de permettre à leurs enfants ensuite de créer des masques ou des dessins à partir de ça, ou d'aller voir différemment la nature aussi, c'est-à-dire de s'attarder, pourquoi pas, sur un tronc d'arbre après et voir ce que ça donne, comment c'est.
Quelles sont les conditions pour participer à cette manifestation ?
Eh bien, les conditions, c'est déjà d'aimer marcher, d'avoir, si on n'aime pas marcher, d'avoir envie de s'y mettre et de se dire, tiens, c'est l'occasion, je vais aller... faire ce parcours, voilà. De toute façon, quelles que soient ses capacités sportives, tout est possible puisque on l'a dit avant, mais il y a 3 circuits, donc on peut le faire à son rythme et tranquillement. Bien se préparer à avoir une gourde. Nous, on aura des ravitaillements en eau, etc., pour pouvoir vivre cette expérience le mieux, le plus sereinement possible. Et c'est aussi avoir envie tout simplement d'un moment convivial sur le territoire et de découverte en amis, en famille. Voilà.
Sixième marche des réconciliations, le dimanche 25 juin à Blancoteau, à partir de 8h30 avec un départ des 3 randonnées. Plus d'informations sur le site champagne-patrimoinemondial.org. Merci Séverine Couvreur, vice-présidente de la mission Coteau, Maison et Cave de Champagne. À très bientôt.
À très bientôt, merci.
Et c'est sur ce rendez-vous que se referme ce magazine régional. Ce vendredi soir, on se retrouve lundi, 18h10, pour de nouvelles actualités en région. Les programmes de RCF continuent de vous accompagner tout au long du week-end. Élise, lundi, vous serez là encore une fois avec nous ?
Exactement, je serai encore là jusqu'à mardi.
Au moins pour le début de semaine. Lucie, pour vous, c'est les vacances. On vous souhaite un bel été, de bien profiter. Ne narguez pas trop les frangines qui, elles, ne le sont pas encore tout à fait.
Oui, exactement. Mais merci encore.
Merci pour votre implication, Lucie. À très bientôt. Merci à tous nos auditeurs pour votre fidélité. On se retrouve lundi, 18h10. Tout de suite, c'est l'Information nationale qui prend le relais sur RCF.